Chapitre 8. Un tournant social, politique et culturel. La France de 1974 à 1988. Cours 3. Un accès plus large et plus libre à la culture. 1974-1988. Au cours des décennies 1970 et 1980, la France connaît d'importantes mutations dans le domaine culturel. L'État relâche son contrôle sur l'audiovisuel et veut démocratiser la culture, comme au temps du Front populaire. Les pratiques culturelles se diversifient. A. L'évolution de la politique culturelle. Une intervention limitée de l'État sous Giscard. La culture ne fait pas partie des priorités de Valéry Giscard d'Estaing quand il devient président en 1974. Le ministère des Affaires culturelles, créé en 1959 par De Gaulle, devient un secrétariat d'État à la culture dont la part dans le budget de l'État diminue. 0,61% en 1974, 0,47% en 1981. Moins féru d'art contemporain que son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing est un passionné de l'époque Louis XV. Il retire de l'Élysée le mobilier moderne que Georges Pompidou y avait fait installer. Sa politique culturelle conservatrice est surtout tournée vers la sauvegarde du patrimoine. En 1977, il lance le projet de transformation de la gare d'Orsay en musée et en 1979, la Cité des sciences naît de la sauvegarde des abattoirs de la Villette. La rupture des années longues. Entre 1981 et 1982, François Mitterrand double le budget du ministère de la Culture, dont les missions sont élargies au-delà de la préservation du patrimoine. Favoriser l'épanouissement des individus par les arts, soutenir la création artistique et défendre le rayonnement de la culture à l'étranger. Cette politique culturelle active est incarnée par le ministre Jacques Lang. Il fait de la culture un levier économique en soutenant les industries culturelles. Le prix unique du livre aide les librairies et rémunère mieux les auteurs. Il crée aussi des fêtes populaires, la Fête de la musique, 1982, et Journée du patrimoine, 1984. François Mitterrand lance de grands travaux comme l'aménagement du Grand Louvre, l'Institut du monde arabe et le nouvel opéra de la Bastille en 1989. B. Les transformations du paysage audiovisuel français. La mainmise de l'État sur les médias, 1974-1981. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing remplace l'ORTF par trois chaînes de télévision publique concurrentes, TF1, Antenne 2 et France 3, et quatre stations de radio publique, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, réunies au sein du groupe Radio France. Si le contrôle de l'État sur les médias est plus discret qu'au temps de l'ORTF, les responsables de l'audiovisuel sont toujours choisis par le pouvoir. Parallèlement, des radios FM pirates se multiplient sur le sol français grâce au coût plus abordable des émetteurs. Le 28 juin 1979, la police interrompt l'émission de radio Riposte, diffusée par le Parti Socialiste à Paris, et inculpe François Mitterrand pour violation du monopole d'État sur la diffusion radiophonique. Une libéralisation progressive de l'audiovisuel, 1981-1988. Le Parti Socialiste réclamait en 1981 une information libre et pluraliste. La loi du 29 juillet 1982 proclame que la communication audiovisuelle est libre. Une haute autorité de la communication audiovisuelle, future CSA, est créée pour délivrer des permis d'émettre aux nouvelles chaînes de télévision et stations de radio. Canal+, nouvelle chaîne payante, est lancée en 1984. Durant la cohabitation, 1986-1988, TF1 est privatisée et une autre chaîne privée est créée, la 5. Parallèlement, la fin du monopole d'État de radiodiffusion est l'objet de convoitises. Les autorisations d'émettre sur la bande FM sont soumises à la haute autorité. De multiples radios sont créées, comme Énergie ou Fun Radio. Mais les conditions d'attribution des fréquences manquent de transparence. C. Les nouvelles formes de la culture populaire. Une culture de masse. Dans les années 1980, plus de 90% des foyers possèdent un téléviseur. Les chaînes cherchent à fidéliser le public et les annonceurs auxquels elles vendent des pages publicitaires par des émissions de variété ou de jeux présentées par des animateurs vedettes et par des séries américaines comme Dallas entre 1981 et 1987 ou La Petite Maison dans la Prairie entre 1974 et 1983. Certains dénoncent une uniformisation et une américanisation de la culture. Mais la télévision facilite aussi l'accès au savoir grâce à des émissions littéraires, Apostrophe, animée par Bernard Pivot à partir de 1975, ou des documentaires. La culture de masse permet un élargissement et une diversification des pratiques culturelles. Une culture jeune. On le voit bien avec l'importance croissante des jeunes sur le marché de la culture. La mode des mangas et dessins animés venus du Japon est lancée par Goldorak, diffusée à partir de 1978 sur Antenne 2. En 1984, le rap, issu des banlieues noires des États-Unis, fait son apparition dans l'émission Hip Hop sur TF1. La musique s'écoute dans la rue et se regarde à la télévision avec les clips qui se multiplient au début des années 1980 et contribuent beaucoup à la popularité d'artistes comme Michael Jackson ou Mylène Farmer. Cette nouvelle culture des écrans passe aussi par le jeu vidéo, un nouveau loisir pour la jeunesse qui se développe dans les années 1980.